Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
L'actualité ce matin, c'est ce rebondissement dans l'affaire Ligonnès avec la Brigade Nationale des Fugitifs et la PJ de Nantes, en route pour l'Écosse. Un homme donc arrêté hier à l'aéroport de Glasgow et selon ses empreintes digitales, il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès. Des comparaisons ADN doivent confirmer s'il s'agit bien de l'assassin présumé de son épouse et de ses quatre enfants en 2011. Les autres titres, Laurence ?
À l'étranger, les frappes turques dans le nord de la Syrie. Le président Erdogan déterminé à poursuivre l'assaut contre les Kurdes. La politique et cet encouragement de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse pour se présenter à la présidentielle de 2022 à la veille d'un week-end de vote pour la présidence du parti Les Républicains. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à Lyon pour le festival Lumière. Eric, vos invités.
L'invité à partir de 8h20, ce sera Clémentine Autain, la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale.
France Inter. Coup de théâtre donc dans l'une des plus incroyables énigmes criminelles des dernières décennies. La police écossaise a arrêté hier à l'aéroport de Glasgow un homme. Selon ses empreintes digitales, il s'agirait de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille, sa femme et ses quatre enfants en 2011. Le récit de Cécilia de Corso.
Ce que l'on sait ce matin, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès est arrivé en Écosse par le vol EasyJet U2-68-84 en provenance de Charles de Gaulle hier après-midi, arrivé peu avant 15h à l'aéroport de Glasgow. La police écossaise l'attendait et il s'est rendu sans résistance. Police Scotland reste encore discrète ce matin sur les détails de l'arrestation. En revanche, elle a confirmé qu'un homme a bien été arrêté hier à l'aéroport de Glasgow et qu'il reste en garde à vue. Cet homme, toujours selon la police locale, était placé sous un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités françaises. L'enquête est en cours pour confirmer son identité. Selon le procureur de Nantes, Pierre Sénès, les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs et de la PJ de Nantes sont en route pour l'Écosse aujourd'hui. Glasgow, Cécilie Corso, France Inter.
Alors d'après le journal Le Parisien, le suspect de la tuerie de Nantes voyageait sous une fausse identité. L'homme était absolument méconnaissable. Il faut le voir pour le croire, a confié un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Les enquêteurs, on le voit, restent prudents. Ils attendent les comparaisons ADN. L'homme a été vu pour la dernière fois, l'homme Xavier Dupont de Ligonnès, pour la dernière fois, dans un hôtel dans le sud de la France. C'était il y a 8 ans, Corinne Audouin.
La dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès, c'était celle d'un homme partant à pied, sac sur le dos, depuis un hôtel de Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. On est alors le 15 avril 2011. 6 jours plus tard, les corps de sa femme, Agnès, et de leurs 4 enfants, âgés de 13 à 21 ans, sont retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison familiale. Derrière l'image de la famille modèle, on découvre un homme criblé de dettes. Dans les jours qui précèdent les meurtres, le bail de la maison de Nantes a été résilié, les comptes clôturés, des lettres envoyées aux proches, au collège, à l'employeur pour justifier l'absence de la famille, soi-disant partie à l'étranger. Depuis, les enquêteurs n'ont jamais cessé de traquer Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont envisagé toutes les hypothèses. Le suicide d'abord, les grottes et ravins du Var sont fouillés à plusieurs reprises. On cherche aussi un fugitif. Les signalements arrivent du monde entier. Le dernier en date, en janvier 2018, venait de fidèles qui ont cru le reconnaître sous les traits d'un moine dans le Var. Sa cavale a donc finalement duré 8 années, une éternité qui pose la question de possible complicité.
Corinne Audouin, à l'étranger, plus de 100 000 personnes ont fui les combats au nord de la Syrie. En 3 jours, selon l'ONU, les affrontements se poursuivent, notamment non loin de la petite ville d'Akçakale, côté turc, sur la frontière avec la Syrie. Une ville visée par les combattants en kurde ces derniers jours, où se trouve Mathieu Mondoloni. Il s'est rendu à la frontière syrienne avec des pro-Erdogan très hostiles aux Kurdes.
Sur les façades des immeubles, des grands drapeaux rouges frappés du croissant blanc et de l'étoile à 5 branches. Ici, tout le monde soutient l'opération militaire lancée il y a 4 jours par le président Erdogan. L'armée guerrière, tout comme les mots qui sortent de la bouche de certains habitants.
On va éradiquer Daesh, on va éradiquer le YPG et aussi le PKK. Et avec la permission de Dieu, tous les groupes terroristes. Et si quiconque essaye de s'en prendre à notre pays, on les tue.
Le bruit des canons résonne à nouveau. L'objectif est de prendre la ville syrienne de Tal Abyad, située juste en face, et pour l'instant toujours aux mains des combattants kurdes. Tal Abyad n'est pas kurde, explique Ramazan, un jeune kurde de 29 ans. C'est une ville arabe. Les Kurdes l'occupent, c'est tout. Le but de cette opération est de rendre la terre à ses vrais propriétaires. Et les vrais propriétaires, ce sont les Arabes syriens, qui ont encore leur famille là-bas, pas les Kurdes. Quelques rues plus loin, une foule en colère porte le cercueil d'une des quatre victimes civiles tuées la veille. Le poing levé, ils lancent des slogans nationalistes. Les martyrs sont immortels et notre pays est indivisible.
Mathieu Mondoloni à la frontière syrienne avec les moyens techniques de Marc Garvenès. Deux morts, plus de 100 000 personnes évacuées. Les incendies dans le sud de la Californie ont détruit de nombreux bâtiments au nord de Los Angeles. Le Japon en alerte avant l'arrivée d'un puissant typhon. Les autorités japonaises conseillent à plusieurs centaines de milliers de foyers d'évacuer les zones menacées d'inondations. Selon la télévision japonaise, la NHK, les vents puissants qui ont commencé ce matin à balayer la région de Tokyo ont fait 4 blessés dans la préfecture de Chiba, à l'est de la capitale. Des commerces, des usines, des lignes de métro ont été fermés par précaution et par ailleurs deux matchs de la Coupe du Monde de rugby prévus aujourd'hui, dont celui entre la France et l'Angleterre, ont été annulés.
Voilà à présent une déclaration qui pourrait peser lourd dans le paysage politique français.
Nicolas Sarkozy a publiquement encouragé Valérie Pécresse a participé à la présidentielle de 2022 en décorant de la Légion d'honneur hier soir celle qui fut sa ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'ancien président de la République a estimé que la présidente de la région Île-de-France avait les qualités requises pour être candidate. Un soutien quelques heures avant l'ouverture d'un scrutin pour élire un nouveau président du parti Les Républicains. Cécilia Arbonnat.
La cérémonie se déroule en rez-de-jardin du Conseil régional en présence de 400 convives, des anciens ministres comme Christine Lagarde, Luc Chatel, Roger Karoutchi, Jean-François Lamour. Touché que Valérie Pécresse l'ait choisi comme remettant de sa Légion d'honneur, Nicolas Sarkozy la remercie. « Nous avons le même moteur, dit-il, celui de l'engagement, et je ne peux pas en dire autant de certains membres de ma famille politique. Je te souhaite le plus fort, le plus haut, quitte à rêver, alors autant rêver grand. » Je sais que tu peux y arriver. Dans le salon Pierre-Charles Krieg, l'assistance saisit la force du message. Sarko vient de la désigner comme une candidate sérieuse pour l'Élysée, traduit un invité. Il considère qu'elle a la stature d'une présidentiable. Lâche-toi, Valérie, sois toi-même et l'opinion publique te suivra, lance l'ancien patron de l'UMP et des Républicains. Nicolas Sarkozy casse les codes en plein week-end de vote pour la présidence du parti. Il encourage une dissidente décidé à rénover la droite de l'extérieur.
Cécilia Arbonnat, ce sera l'ouverture ce soir du festival Lumière à Lyon et ça va durer jusqu'au 20 octobre.
Pas de compétition, pas de smoking, un festival ouvert au public, pour le public, à Lyon et dans le Grand Lyon. L'idée est de fêter le cinéma, tous les cinémas et surtout de toutes les époques. Ce festival fête ses 10 ans et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette ville, berceau du cinéma puisque c'est celle des Frères Lumière, n'avait pas de festival jusqu'à ce qu'il y a 10 ans. Deux grands amoureux du cinéma décident d'y célébrer le patrimoine des habitants.
Il est cinéaste, cinéphile et lyonnais, le tout passionnément. Dans la ville des Frères Lumière, ils ont fait ce pari avec son complice Thierry Frémaux que les films n'avaient pas d'âge. Bertrand Tavernier.
Je crois qu'on en a fait en France le plus grand rendez-vous des amateurs de ce cinéma de patrimoine qui est toujours prodigieusement vivant et qu'on redécouvre parce que les films sont exhumés, restaurés et tout de suite, on a eu un succès extraordinaire.
C'est devenu une tradition. Des artistes se rendront dans les salles de cinéma du Grand Lyon présenter des films qu'ils aiment.
Ça passe bien quand un cinéaste se met à parler de l'œuvre d'autres personnes. C'est une phrase de Victor Hugo qui est pour moi essentielle. Il y a dans l'admiration un je ne sais quoi de fortifiant, de réconfortant, qui dignifie l'intelligence. Et je pense que l'admiration, en effet, stimule.
Le programme est alléchant, mais surtout, il y a l'atmosphère, la cinéphilie comme une gourmandise.
Eva Bettan, la suite du 6-9 du samedi avec Eric Delvaux.
C'était le journal de Laurence Thomas.